bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale, soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre avec Leïla Kadoboudadi, Samuel Morin, Tom Villa-Guillermo, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité Agnès Jaoui. Bonjour Agnès, merci.
Bonjour, merci à vous.
Ah, il est long ce générique, hein. il voulait pas s'arrêter celui-là.
Merci. Ça, c'est le jeudi, ça.
Non, mais je sais pas.
Et on profite.
Agnès Jaoui, metteuse en scène, on prend le féminin? Metteuse en scène, ouais, c'est joli, metteuse en scène.
C'est pas hyper joli, mais.
Mais
c'est metteuse qui fait un peu. Mais bon, en même temps, il faut bien s'habituer, voilà.
Il faut bien l'appeler comme ça s'appelle. Voilà. Vous faites donc la mise en scène, ça sera plus élégant de dire comme ça, de Tosca de Puccini. Tosca qui est une pièce de théâtre, en fait, avant de devenir un opéra.
Oui, c'est une pièce de théâtre de Victorien Sardou, l'arrière-grand-père ou le.
Je pense que c'est l'arrière-grand-père. L'arrière-grand-père.
Il y a Ferdinand, non.
Il est tapé Michel, mais quand même.
Ouais. C'est l'arrière-grand-père. Ouais, c'est à Jackie.
Ok.
Jackie et Michel, les Sardou. Les Sardou infernaux.
Ok, ça c'est fait. On travaille comment la mise en scène d'un opéra? C'est la première fois que vous faites ça?
Oui, c'est la première fois. Oui.
Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter?
Parce que l'envie, enfin je veux dire je savais qu'un jour j'y arriverais. Je fais du chant classique depuis fort longtemps, c'est une de mes passions et je la pratique en tant que chanteuse amatrice. Ou amateuse, mais
c'est bref, amateuse et metteuse, ça fait beaucoup pour une seule femme, hein, quand même.
J'assume.
On est jeunes.
Et puis je fais par ailleurs de la mise en scène, donc il était logique qu'un jour les deux se rejoignent.
Non, vous êtes complètement légitime en fait, non? Vous dites comme ça, Agnès, oui, je fais un peu de chant comme ça, mais non, en fait.
Et
vous,
je bricole, non, mais, le week-end.
Ouais, c'est hyper logique en fait. Enfin, c'est.
Pourquoi,
oui, oui.
Pourquoi ouais. Ne pas l'avoir fait avant alors?
Ouais.
Parce que j'avais trop envie d'être sur scène moi-même.
Ouais, d'accord.
Voilà. Là, je mets en scène d'autres personnes et je pas moi. Et j'étais pas encore prête pour ça. Mmh. Voilà.
Alors petite précision, on a évoqué tout à l'heure Sardou en disant père, grand-père. Ouais. C'est pas du tout la même famille en fait.
Non, c'est pas du tout la même famille.
Non.
Putain, okay. Il a fallu que je vienne ici pour. C'est pas possible.
Ah bah vous êtes pas venu pour rien.
Non, bah tu vois.
Allez. Et vous aviez accepté pour ça? C'est bizarre quand même.
Non, c'est pas du tout la même famille, mais voilà, c'est un, autant.
Non, mais c'était un élément de teasing pour faire venir des gens qui ne vont jamais à l'opéra, c'est leur dire que c'est Gore, que c'est le grand-père de Michel Sardou.
Bah non. Et
quelle déception.
Alors, on va continuer d'en parler de cette Tosca de Puccini. Il faut préciser que c'est un opéra en plein air, qu'il y a plusieurs représentations qui sont prévues. Les premières seront les 14 et 15 juin au domaine de Sceaux. Ensuite, toujours au mois de juin, mais fin juin, 27, 28, 29, au château de Vincennes. 2 juillet à Carcassonne, 5 et 6 juillet à Saint-Germain-en-Laye et retour en septembre aux Invalides, les 4, 5, 6, 7 et 8 septembre. Mais d'abord,
quoi ?
Des questions concernant Agnès Jaoui. Pourquoi Agnès, enfant, a failli être aveugle ? Ça commence bien ce genre de questions.
Elle avait oublié d'ouvrir les yeux.
Non.
Aveugle ?
Ouais.
C'est renversé un
elle
produit.
Elle se met quelque chose dans les yeux.
Un problème à l'accouchement.
Non.
Avec un produit la javel.
Le lait brûlant dans les yeux. Bouillant
avec.
Dans les yeux.
Alors.
Un produit ménager dangereux.
C'est de la nourriture.
Du white spirit. À l'époque, on avait ça accessible.
L'alcool à 90.
C'est un liquide dangereux, mais c'est pas un liquide industriel en fait. C'est issu d'une plante, hein, c'est ça?
Ouais, mais comment vous savez ça?
C'est votre docteur qui nous a appelé, qui nous a dit qu'elle s'est appliquée sur le visage un liquide blanc venant d'une plante et qui a failli vous rendre aveugle.
Oui, parce que mon frère m'avait dit que si je me le mettais sur le visage, je serais blanche comme Blanche-Neige. Et alors évidemment, ça m'a beaucoup intéressée. C'était un but dans ma vie. Et donc, je l'ai cru surtout, parce que c'était mon frère. Et j'étais surtout, oui, effectivement, complètement...
Brûlée.
Les yeux attaqués. Oui, c'était une plante grasse au kibbutz Ratzor en Israël. Voilà.
Mais dans ce genre de situation, le frère a-t-il des remontrances ad vitam aeternam? C'est-à-dire, vous lui en voulez encore aujourd'hui ou
Non, je pense que lui, par contre, se sent très coupable.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la plus belle définition. Concernant toujours Agnès Jaoui, dans le couple Bakri Jaoui, elle n'a jamais voulu. Lui, il a essayé, mais sans succès.
Mariage ?
Non.
Divorce.
Ah, c'est allé vite, hein.
Non, non, vous non. vouliez.
Ah non, non, elle, non, elle n'a jamais voulu.
D'accord, mais Jean-Pierre, oui.
Lui a essayé, mais sans succès.
Ah, moi-même, je ne vois pas.
Il la Légion d'honneur.
Non, c'est une adaptation, je suppose. Non.
Non, non, non.
De la mettre en scène, non. De la. Qu'est-ce qu'il a...
Elle n'a jamais voulu. Lui a essayé. Prendre. Ça n'a pas fonctionné.
Ah, je vois.
Vivre ensemble.
Non.
Sous le même toit.
Séparément.
Non.
Faire à manger.
Non.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est vrai, Guillermo, t'arrives vers quelle heure? Tu me préviens?
Non, j'ai réfléchi, je trouve rien.
C'est ça ton problème,
c'est dans un domaine plus personnel ou professionnel?
Professionnel, on ne pourra pas rentrer dans la vie.
Bah, le coup du liquide blanc sur le visage, c'était assez personnel.
Ah, une adaptation.
Oui. Enlevons cette image, passons à autre chose.
Oh là là, il est là.
Mais non.
Oh non.
Attends.
Qu'est-ce que tu as dit?
Une adaptation?
Non, mais c'est professionnel, oui, donc c'est dans l'idée. De l'écriture.
Alors, pas la diriger, pas la.
Non.
Faire une commande d'un texte.
Mais non, enfin, elle n'a jamais voulu. Lui, il a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais voyons.
La drogue?
Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Non. Pas d'idée?
Mais non.
Bah
non.
Ok, perdu. Écrire avec quelqu'un d'autre.
Ah, mais oui, mais c'est impossible qu'ils écrivent ensemble.
Et pourtant, lui, il a essayé, ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez jamais... C'est-à-dire que si un co-scénariste vient vous voir en disant « on pourrait travailler ensemble », vous dites non.
Bah, jusqu'à présent, je n'ai pas eu envie, oui, non.
Donc c'est qu'une question d'envie ou vous vous dites « ça ne peut pas fonctionner » ?
Ah non, c'est une question d'envie.
D'accord. Ouais. En septembre, elle a partagé la même affiche que Juliette Binoche, mais quel genre d'affiche ?
De théâtre, de cinéma.
Septembre.
Non.
Pour.
Non, mais c'est le perfora ce matin.
Pour du chant, c'est pour du chant.
Non.
Les enfoirés.
Pour un.
Mais j'essaye de vous perdre un peu, sinon c'est trop facile. Quoi.
Pour un colloque sur une thématique en particulier. Pour les femmes qui prennent la une et qui revendiquent l'égalité.
Pas loin.
Qui, contre les violences faites aux femmes. Une tribune.
Sur l'environnement.
Une tribune contre les.
Exactement. Bien vu, Guillermo. Ah, il était temps que tu travailles. Ouais, 200 personnalités ont signé un appel pour sauver la planète, ce qui est c'est un nouveau, c'est pas un nouveau combat, mais
est-ce que c'est pas un peu surévalué?
Je crois pas. Non, mais je crois pas vous avoir beaucoup entendu sur
la planète. parce que quand même beaucoup de gens s'emparent de ce sujet à juste titre, donc je n'ai pas besoin de le faire. Mais voilà, quand on m'a proposé de signer cette pétition, je pouvais difficilement dire non aussi. Voilà.
Lors de la pièce L'anniversaire de Pinter, mise en scène par Jean-Michel Ribes, Agnès connaît deux premières. Lesquelles? Deux premières. Donc
en
c'est
France, à l'étranger, avec une autre distribution.
En anglais?
En anglais?
Non.
Deux premières?
Ouais.
Premier trou de mémoire?
Non.
Première récompense?
Non.
Une avec un public bien particulier?
Non.
Ok. Deux premières.
Deux
comment
premières avec l'anniversaire de Pinter, mise en scène par Jean-Michel Ribes.
Elle aura joué à plusieurs années d'intervalle?
Non.
Son anniversaire sur scène?
Non.
Deux anniversaires.
Premier salaire?
Oui. Et après? Donc premier chèque.
Premier chèque et...
Et premiers licenciements.
Et la perte du premier chèque.
Mais c'est à des
années... demi-point.
C'est à des années d'intervalle, ça?
Non, 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 non.
Tu fais quoi?
Donc le même jour, il y a premier salaire.
Ah, je sais pas, c'était sur la première de théâtre.
Non, non, une première dans sa vie.
Ouais.
Premier salaire et...
Première mise en... Première sur scène?
Non.
Non, c'est une méthode, non.
Ah, on en a parlé il y a pas longtemps.
Les impôts?
Non.
Première avec Bacri.
Oui, exactement.
Ah, putain.
Ah, complémentaire. Premier chèque et première rencontre avec Jean-Pierre Bacri. Les deux n'ayant pas de rapport, oui, c'est ça.
Mais non, aucun, c'était très étrange comme association.
Oui, c'est vrai.
Mais j'imagine, on se souvient.
C'est quand même une bonne première, je veux dire, vous rencontrez Jean-Pierre Bacri et puis en plus, vous avez un peu de.
Et en plus, je suis payé pour ça. Mais
ouais.
Enfin, vous faire payer pour rencontrer Jean-Pierre Bacri, ça
n'a rien à voir.
J'espère qu'il n'écoute pas.
Mais vous dites avoir été. Évidemment, le premier salaire, ça marque. Ce qui vous a marqué, c'est d'être payé pour une passion.
Ah oui, oui, oui. Oui, ça fait bizarre. Enfin, ouais. Je veux dire, évidemment, on a tellement envie de jouer, puis voilà. Enfin, même si j'avais 22 ans, ça faisait quand même des années que je jouais pour rien, évidemment, forcément. Et puis j'y pensais même pas. Donc, en plus, après avoir été engagé, on m'a donné un chèque. Je me suis dit, mais c'est
être dingue. Payé, être
c'est génial.
Oui, c'est
génial.
Beau.
Mais je vais continuer. Je vais continuer de le faire. Allez, dernière question, et après nous reparlons de Tosca, de Puccini, mise en scène par Agnès Jaoui. Quand Agnès est passée à la réalisation avec Le goût des autres, de quoi a-t-elle eu peur?
De ne plus jouer.
Exactement. De ne plus travailler comme comédienne, sous-entendu de quoi? De faire peur aux autres réalisateurs et réalisatrices?
Je n'étais plus qu'un objet. j'étais aussi un sujet. Et donc, il y a des hommes à qui ça les coupe. Ça la coupe. Enfin bref.
Ouais, c'est ça. Ça les coupe dans leur élan.
Ça, oui, c'est ça.
Ça les freine.
Voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous avez reporté l'échéance de la mise en scène longtemps ou c'est seulement après que vous avez dit bon, j'y vais quand même, tant pis, on verra bien ce qui
se passe. Non, ça s'est fait naturellement, entre guillemets. Enfin, j'ai pas repoussé pour ça, mais. En fait, c'est tout. La phrase était finie.
Alors l'histoire de la Tosca, je ne sais même pas si on peut résumer ce drame, parce que ça a été d'abord la pièce de théâtre elle-même n'a pas été un succès immédiatement, apparemment ça a été un succès public mais pas critique au début, et Puccini avait tout fait pour récupérer les droits.
L'opéra, oui. Ah non, la pièce, peu importe.
Puccini ensuite a tout fait pour récupérer les droits, mais comme il voulait modifier ou changer, il devait avoir autorisation de Victorien Sardou, qu'il n'avait pas dans un premier temps, il a fini par l'avoir. Et après, ça a été un énorme succès. C'est même pas, ça fait partie des opéras, des incontournables. C'est vous qui avez choisi l'œuvre, ou alors les organisateurs d'opéras en plein air sont venus vous voir en disant voilà, Tosca de Puccini, est-ce que ça vous intéresse de le mettre en scène? Tout était prêt?
Non, c'est Gilbert Devaux et Opéra en plein air qui sont venus me proposer la mise en scène de Tosca.
D'accord. Donc là, pas de choix sur l'œuvre.
Non.
Comment on travaille un tel opéra, une telle mise en scène? Est-ce qu'on se documente pour savoir quelles sont les différentes versions qui ont eu lieu? Quelles sont les figures imposées de l'opéra, de cet opéra-là?
Oui, c'est ce que j'ai fait. Je le connaissais déjà, mais je l'ai évidemment beaucoup plus étudié le plus précisément possible. Pour arriver avec une connaissance de l'opéra quand j'ai commencé à travailler avec les chanteurs. Et on a aussi beaucoup préparé avant, parce que le temps de travail après, il est relativement court. Et puis voilà, la grande différence, c'est que le rythme m'est imposé par Puccini, par la musique et par le chef, mais il y a une partition quand même qu'il faut suivre. Et donc le rythme m'est déjà imposé. Yanis Pouspourikas, oui. D'habitude, mon travail consiste en tout cas à transmettre le rythme que j'ai en tête à des acteurs, à des interprètes. Là, le rythme est à peu près donné.
C'est une figure
imposée. Et donc, c'est autre chose que j'ai à transmettre.
Alors, comment on trouve sa place justement dans cette écriture de mise en scène?
Avec les contraintes, mais moi ça me plaît beaucoup en fait, avec justement une contrainte qui est que là il y a tout d'un coup un temps musical des fois surprenant, des fois souvent fabuleux, hein, mais des fois on se dit mais pourquoi il s'arrête là tout d'un coup, il va l'étrangler, et ce Vici d'Arte d'ailleurs arrive à un moment, et c'est ce qui est magnifique. On est dans une action, on est dans une tentative de viol, et tout d'un coup tout s'arrête pour cet air complètement suspendu. Et donc, il faut trouver une mise en scène qui va avec, qui met en valeur ce temps suspendu qui est sublissime et qui fait aussi,
L'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui a un amant, c'est ça, et qui fait tout pour sauver son amant.
Oui,
en s'offrant à un commissaire ou à quelqu'un qui
Oui, il y a le chef de la police, voilà. Carpia, qui est une des figures de grands méchants de l'opéra. Qui règne sur l'Italie, qui est en train de, voilà, il y a des gens qui luttent pour que ce soit une république, mais ça l'est pas encore, il y a encore une monarchie. Bon, bref, il y a des luttes politiques, et l'amant de Tosca est un homme qui est lui au contraire un voltairien, enfin engagé pour la république, et Scarpia va le choper et il va être pris et être torturé.
Par ce commissaire. Et elle va s'offrir au commissaire pour pouvoir libérer son amant.
Il va lui dire, couche avec moi pour que, et à ce moment-là, je libérerai ton amant.
D'accord. C'est un marché.
Et ça finit d'une manière totalement dramatique. Ouais. C'est-à-dire que c'est
C'est un opéra. Non, mais c'est vrai.
Est-ce que il y a des figures justement imposées de mise en scène au-delà du rythme de la musique? Est-ce qu'on vous a dit, au moment où justement Vici d'Arte, qui est le, on va dire quoi, le tube,
l'un des
succès,
il y a Lucio van le Stelle,
Lucio van le Stelle là. Pour préciser quand même, les voix que nous entendons sont celles de Pavarotti et de la Callas, parce qu'il y a quand même des grandes signatures aussi qui ont interprété ces rôles. Est-ce qu'on vous dit, voilà, à ce moment-là, l'artiste qui fait ce morceau est forcément comme ci, comme ça?
Il y a quelques traditions.
D'accord.
D'ailleurs, l'une des traditions, elle a été donnée par Sarah Bernhardt. Parce que c'est ça qui est incroyable avec la Tosca, c'est que ça a été d'abord rendu extrêmement populaire par Sarah Bernhardt, qui est donc voilà la figure de l'actrice et puis mondialement et puis après par la Callas.
Donc c'est d'abord la pièce de théâtre qui a donné ses codes de mise en scène.
Absolument. Et c'est elle qui à un moment a décidé de quand elle assassine Scarpia de mettre les chandeliers, la croix, enfin voilà, etc. Et après ça a été respecté par pas toutes les mises en scène, mais c'est souvent respecté et je le respecte aussi car je suis très respectueuse.
Ah ouais, mais alors comment mettre sa patte dans tout ça? Parce que quand même, tant qu'à le faire, autant aussi apporter quelque chose, pas simplement faire bien un sûr. Copier-coller de
ou
ce qui a été
fait. Non. À d'autres endroits, peut-être. Ouais. C'est peut-être
voilà. Ça dure 2h15, donc j'ai le temps de mettre ma patte. Et même là, il y a des façons de... Mais je cherche surtout à faire que ce que je ressens, parce que j'aime infiniment cette musique, soit ressenti par par les spectateurs. Pas tout pas.
Et le fait que ce soit en plein air, ça joue énormément aussi.
Ça joue.
Et que la démarche initiale de cet opéra en plein air, c'est de rendre l'opéra accessible au plus grand nombre aussi. C'est de démocratiser l'opéra. On a le sentiment que c'est pas fait pour nous parce que il faut être abonné ou riche ou habitué.
Ou savant.
Voilà. Pour aller dans ces lieux-là. Là, c'est pas du tout. C'est une ouverture très populaire.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est en plein air, mais c'est surtout et aussi devant des lieux absolument magnifiques.
Ouais, très beau site, ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que c'est devant le château de Vincennes, le château de Carcassonne, la cité, etc.
Bref, aux Invalides.
Enfin, à chaque fois, j'ai le sentiment qu'il y a un écho entre la splendeur et la démesure de ces œuvres, et la splendeur et la démesure des lieux dans lesquels nous allons jouer, chanter, etc. Donc c'est... Ça, il y a quelque chose qui correspond complètement, et aussi parce que parfois on s'ennuie à l'opéra, et c'est pas grave, au contraire. Enfin, je pense qu'il faut aller se laisser là-dedans, aller dans cet ennui, enfin dans cette espèce de... On n'est pas forcément dans une efficacité comme ça, enfin même si des fois on est pris du début à la fin, mais on pourra aussi regarder autour, et puis... Avec Jaco Verolis qui fait les lumières, on va pouvoir aussi éclairer parfois les monuments, avec la scène, faire jouer tout ça. Et je pense que c'est un écho, un miroir qui est un écrin.
Que le site fasse partie du décor de...
Totalement.
Et puis ça peut être aussi une motivation, se dire tiens, allons dans cet endroit et allons, par la même occasion, découvrir Tosca. Parce que souvent, quand on parle de musique classique, d'opéra, il est vrai que le lieu, qui est un peu formel, l'opéra, avec ses codes, est un peu inquiétant quand on n'est pas du sérail. Là, se dire que c'est en plein air, que des tribunes sont installées, il y a un peu moins de cérémonial qui, je pense, détend aussi le spectateur. Et je crois qu'il y a une politique tarifaire aussi qui est prévue pour faire en sorte que le plus grand nombre puisse assister à... Et ça, c'était important d'accepter pour ces conditions-là aussi ou pas?
En tout cas, ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que oui, de façon générale, je trouve les ghettos, évidemment, dommageables et que plus on ouvre. En plus, c'est éminemment populaire, l'opéra. En fait, on est. D'ailleurs, mon premier souvenir d'opéra, c'est au terme de Caracal en Italie et j'ai 15 ans et demi, je suis avec mon amie Isabelle Deveau et je ne sais pas pourquoi ni comment nous allons prendre ces places. Et il y avait avec moi, on avait pris des places pas chères, on était étudiantes, et puis les premiers rangs étaient vides, et tout d'un coup, le chef d'orchestre est arrivé, et j'ai vu toute cette foule se précipiter vers les places de devant, et c'était des gens complètement simples, et d'ailleurs ils connaissent les airs par cœur, et il y avait une ferveur comme dans les matchs de foot, etc. C'est très populaire, réellement. Après, c'est bizarre comment on codifie, et comment on rend les choses très chicos, et tout ça, mais... Enfin, d'ailleurs, il n'y a pas d'antinomie, ça peut être populaire et chicos, bref.
Il y a aussi la peur de ne pas comprendre l'histoire, puisque quand on a ces airs d'opéra, si on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas trop bien qui est qui, ce qui se passe, ou ce qui est chanté, ce qui est dit, dans une autre langue en plus. Comment rendre cette histoire de... Et puis alors, je dois reconnaître que la Tosca, pour avoir entendu plein d'air, là je me suis penché sur l'histoire et je l'ai découverte.
On connaît souvent mal les histoires des opéras. Ouais. Hein. Je veux dire, si on devait pitcher comme ça les grands opéras, on serait très très embêté en réalité, parce qu'on connaît des airs, mais si on n'a pas vraiment, on n'est pas assidu, c'est difficile de raconter l'histoire des opéras, je trouve.
Oui, mais, c'est souvent difficile. Là, elle est relativement simple, ouais. Et relativement simple à comprendre, même... sans connaître l'italien ou sans connaître spécialement. Mais il se trouve que de toute façon, ce sera raconté avant sur scène par quelqu'un, par je crois Gilbert Devaux lui-même, qui va expliquer les choses aux gens. Il y a un programme, il y a des surtitres. Et encore une fois, moi j'espère que la mise en scène et l'engagement des acteurs et de ce qu'ils jouent va faire que tout soit très entendable, je pense.
Ça commence les 14 et 15 juin au domaine de Sceaux, dans la région parisienne. Ensuite, toujours région parisienne, 27, 28, 29 juin au château de Vincennes. Puis la très belle cité de Carcassonne, ça sera le 2 juillet. Le 5 et 6 juillet ensuite au domaine national de Saint-Germain-en-Laye. Et puis retour aux Invalides dans le cœur de Paris, 4, 5, 6, 7 septembre, peut-être même le 8 septembre, en plus mise en scène par Agnès Jaoui, avec une distribution qui va tourner en fonction des dates, j'imagine, et disponibilités
des sopranos. Puis aussi, on ne peut pas chanter 5 soirs de suite
pour ne pas se fatiguer. Ouais.
Vocalement, ouais. C'est juste tout à fait impossible.
Donc il y a Karine Babaï-Janian.
Oui.
Qui est la première...
La première, c'est Denise Yetim, avec laquelle je travaille là depuis 3 semaines et qui est sublissime. Ils sont merveilleux, tous les chanteurs. Je suis hyper heureuse de ces voix-là.
Vous avez pu les choisir ou comment ça s'est passé?
On les a choisis, c'est le chef surtout qui les a choisis. Parce que, voilà. Mais évidemment, j'ai donné mon opinion et c'est des voix magnifiques. C'est des gens magnifiques, vous allez voir.
Ce qui est amusant, c'est qu'elles sont toutes les deux belles, elles se ressemblent en plus.
Elles seront trois. Trois à l'arrivée,
j'avais deux noms.
Ils se trouvent très belles toutes les trois. Oui.
Non, mais en plus, dans la même ligne,
il y a toute une histoire d'yeux noirs. Il y en a une qui n'a pas les yeux noirs, mais enfin, bref, c'est des beautés parce que ça fait partie aussi d'un des thèmes de l'opéra sur cette beauté aux yeux noirs et puis d'autres beautés. Enfin, le peintre est en train de peindre une Marie-Madeleine qui est plutôt blonde aux yeux bleus, ce qui rend très jalouse la Tosca au départ.
On ne sait pas si c'est elle ou si c'est une autre qui est peinte ou pas, c'est ça.
C'est une autre et ça la rend très jalouse.
Et Paolo Scariano joue
le peintre.
En l'occurrence, le peintre.
Ouais. Un Italien.
Cavaradossi.
La Voix d'Or. et Jean-Luc Scarpia qui fait Scarpia. Jean-Luc Scarpia.
Jean-Luc Balestra.
Voilà. Jean-Luc Balestra qui fait Scarpia.
Tom Villa, c'est un succès annoncé, hein, cet opéra en plein air et cette Tosca de Puccini mise en scène par Agnès Jaoui.
Bah oui, ça a été créé en 1900, ça continue d'être joué en 2019, c'est un bon indice, non? Je sais pas, il y a des trucs qui ont été abandonnés plus tôt que ça. Le vélo avec la grosse roue devant, la petite roue derrière, ça a été
abandonné. C'est vrai.
Minitel, ça a été abandonné. Julie Pietri, ça a été abandonné.
Elle
est au péage de Mâcon. Tosca, jamais, ça fait 120 ans et c'est pas fini. Ça va être dans 100 ans, je suis pas sûr, toutes les comédies musicales aujourd'hui, elles continuent à être jouées. Mozart, l'opéra rock, déjà dans 6 mois, j'ai un doute, mais alors que Tosca, boum, ça n'a pas une ride. D'ailleurs, comment différencier un opéra d'une comédie musicale? Bon, en France, c'est facile parce que dans l'opéra, ça chante fort et dans l'autre, ça chante faux. Mais, et puis il y a la danse. Il y a quand même moins de danse dans un opéra. En tout cas, pour les personnages principaux, vous avez déjà vu Pavarotti claquer une roue à la fin de Carmen. Montserrat Caballé a rarement fait un grand écart sur le final de Don Carlo. Donc voilà. D'ailleurs, si on se penche 2 secondes sur Tosca, sous prétexte que ça tient la note 25 secondes et qu'on comprend rien en paroles, c'est pas la fête non plus. On l'a dit, voilà, l'opéra, c'est un drame. L'histoire, c'est quand même un peintre qui aide un prisonnier politique en cavale, le chef de police découvre que le peintre aide le fugitif. Et là, le policier utilise la maîtresse du peintre, la fameuse Tosca, pour arrêter le prisonnier politique. Le deal, c'est qu'elle couche avec lui et il laisse tout le monde tranquille. À cette époque-là, il n'y avait pas de hashtag. Hein. Il n'y avait pas l'IGPN, la police des polices. Non, à l'époque, la main courante, c'était au sens propre. Après, vous me dites, est-ce qu'on peut révéler un petit peu plus dans l'histoire ou pas? Voilà, donc là, Tosca, en gros, hein, on va aller très très vite dans l'histoire. Enfin, je vous conseille d'aller la voir sur scène, mais Tosca tue le policier. Allez, carrément, il n'y a pas de demi-mesure. C'est l'avantage de l'époque, hein, il n'y avait pas d'alerte enlèvement. Au mieux. On recherchait les mecs avec des affichettes comme aujourd'hui on cherche des chatons. Et à la fin, le peintre se fait finalement tuer et la Tosca se jette du haut du pont. En fait, Tosca, c'est en quête d'action sur W9. Non, mais en costume et en chantant, mais c'est, faut avouer que ça, c'est vachement bien, quoi. Des intrigues du sexe, des mœurs, de la politique. C'est, ah, c'est sûr que c'est pas un été avec la police municipale de Palavas-les-Flots, hein. C'est, au départ, la Tosca, c'était une pièce de théâtre. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été jugé trop violent. Donc, Puccini s'est dit, bon, bah, tiens, on va raconter des horreurs, mais en chantant. Bah c'est bien, c'est, tiens, le policier psychopathe, tu lui donnes un costume et une partoche, ça va passer tout seul. Moi, je trouve ça bien, les mauvaises nouvelles, ça passe toujours mieux en chantant. Chérie, je suis au chômage, je me suis fait virer, mais sur Libéré, délibéré de la Reine des Neiges, c'était très sympa. Vraiment, on a beaucoup ri avec le patron. Alors, aujourd'hui, on pourrait plus faire Tosca, je pense. Déjà, cette histoire de prisonnier politique en cavale. Vous imaginez, t'es en train de repeindre ton salon, il y a Patrick Balkany qui débarque après s'être échappé du tribunal, c'est pas crédible. Après. Ouais, la voix, alors ça, c'est sa femme.
Après. Qu'est-ce que je peux avec ce sujet, hein.
Les flics couchent avec la maîtresse. Pour libérer Patrick Balkany. Et puis le suicide de Tosca depuis un pont, aujourd'hui, ça serait très compliqué à organiser. Non, aujourd'hui, je pense que Tosca, si elle veut se suicider, l'opéra est fini comme ça.
Suite à un incident voyageur sur la ligne 8, le trafic est interrompu entre opéra et invalide.
Quelle horreur!
Allez, bonne émission.
Entre opéra et invalide. Merci.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Ça file des poils, hein, ces moments de musique comme ça, ces envolées lyriques et la puissance musicale.
En plus,
ouais, ça file des
c'est
poils.
C'est tellement beau. J'ai un peu de mal à parler dessus, hein, d'ailleurs. Excusez-moi.
Bon, alors, je l'arrête alors.
Mais oui, c'est ça vous emporte, ça vous. C'est un privilège et je remercie Opéra en plein air. Enfin, immense, c'est une joie, c'est un bonheur de travailler, de vivre dans cette musique depuis un mois. Plus que ça, même, je dors avec, je me réveille avec. C'est merveilleux.
Alors, quel est le truc que vous
je conseille à tout le monde
que vous voulez apporter justement. Quelle sera votre patte?
Le défi
que vous êtes lancé, c'est de le faire le plus fluide possible, oui, de le faire le plus d'y mettre une, je sais pas, une pointe d'humour noir.
C'est que les gens ressentent le plaisir, l'enthousiasme, l'émotion que je ressens. Mmh. C'est transmettre l'émotion que je ressens moi-même.
Et ça, c'est possible par la mise en scène, uniquement sans pouvoir changer le texte, la musique, le casting, c'est-à-dire, vous interagissez sur quel élément pour le rendre justement le plus intéressant possible?
Sur la lumière, sur les décors, sur, il se trouve qu'il y aura des écrans aussi, je vais me servir, ça sera une toute première, donc je sais pas encore exactement tout ce que ça va donner, mais si c'est aussi beau que ce que j'ai dans la tête, ça va être très beau. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est que il y aura le site, enfin voilà, je vais essayer de jouer, c'est Marie-Laure Roquet d'ailleurs qui fait les images et qui avec laquelle je vais travailler là-dessus, c'est donc tout ça d'amplifier, de qui est par moments des gros plans justement,
ouais,
parce qu'on va mettre en scène, voilà, mettre en image, mettre et aussi que ça ne tue pas ce qui se passe sur scène, que ça, au contraire, que ça le renforce de jouer avec
quand
les lumières.
Quand on est réalisatrice de cinéma, actrice, auteur comme vous, ces gros plans, c'est pour mettre plus des plans d'écoute, parce qu'on sait que c'est par moments plus important encore que de voir celui ou celle qui dit la phrase ou qui la chante, en l'occurrence pour un opéra.
Oui, parfois ce sera des plans d'écoute, parfois ce sera ce qui se passe dans leur tête, les véritables émotions qu'ils ressentent alors que peut-être ils chantent autre chose, et puis ce sera aussi des peintures, des décors, des choses de l'époque, enfin de l'époque ou pas de l'époque, des surimpressions, enfin beaucoup, enfin voilà, tout ce qui peut encore une fois magnifier cette musique qui est déjà magnifique et ces voix qui sont déjà, mais disons, amplifiées, voilà, mettre en valeur tout ce chef-d'œuvre.
Mais autant dans le théâtre contemporain, je suis pas toujours convaincue par l'utilisation des écrans, mais autant à l'opéra, je trouve que faut quand même rendre hommage à ces artistes, parce que non seulement ce sont des chanteurs extraordinaires, mais ce sont aussi des comédiens, des acteurs sur scène assez insensés. Moi, j'ai eu la chance de voir Barbara Hannigan, par exemple, sur scène. Tout d'un coup, quand on voit une artiste comme ça, totalement, mais complète sur tout point de vue. On est dans la salle et si on n'a pas une petite paire de jumelles, pour essayer d'observer toutes ces mouvements, ces expressions, en fait, on a l'impression qu'on laisse la moitié du dîner sur le côté, en fait. Et donc, moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que pour un opéra, on va pouvoir aller chercher du détail, parce que quand on est un peu loin, c'est vrai que la scène est tellement gigantesque, c'est vertigineux, que on est son propre réalisateur, il faut aller savoir où regarder, où chercher. Et si, quand on est novice, on est un peu tenu par la main et accompagné pour aller chercher des choses, moi, je trouve ça génial. J'ai hâte de voir.
Moi aussi.
Tosca de Puccini, mise en scène par Agnès Jaoui, c'est dans la série des opéras en plein air, de ce drame, cette émotion, cette tension. Il est tout aussi dramatique, mais avec une autre forme de tension. C'est Guillaume.
Ça va, les amigos?
Mais oui. Non.
Alors moi ça va, je suis à 40 cm d'Agnès Jaoui, que j'admire beaucoup. Et vous commencez, moi je suis pas dans la flagornerie. En général, avec les invités. Ici, même quand on a reçu Jean-Marie Le Pen pour Casse-Noisette, je me rappelle, Nagui était comme un fou. Moi, j'avais mis des réserves. Je trouvais que Bruno Gollnisch, dans le rôle de Clara, sur papier, tu disais, évidemment, tu vois, mais dans le rendu. Eh bien, pareil ici, je viens de dire, Agnès Jaoui, je suis fan, hein, mais pour avoir eu la chance d'assister à une répétition de la Tosca de Puccini, que vous allez mettre en scène, il y a des fois où je me suis dit, moi, j'aurais pas fait comme ça, quoi. J'étais frustré parce que je voyais que vous tâteniez un peu sur les intentions de Puccini. Dans ma tête, j'étais là, Agnès, si tu sais pas, demande-moi, quoi. Tu vois, ça va, c'est con. Vous avez votre fierté, je comprends et tout. On n'a pas toujours envie de consulter les spécialistes, mais à un moment, tu disais, faire chanter les gens sans micro, tu vois, en 2019. Enfin, bref. Hey. Alors, je dois vous avouer un truc. Quoi, tu te mouches dans tes chaussettes? Oui, aussi, parfois. Il y a pas de honte, hein. Voilà. Il a dit Michel Berger. Mais non, ce que je veux vous avouer, c'est que de toute ma vie, je suis jamais allé à l'opéra.
Mais non.
Restez assise, Leïla, je sais que je vous dégoûte. Je sais que je vous dégoûte. Et que vous n'avez pas signé un terre pour travailler avec un minable. Hein, quelqu'un qui a jamais été chercher le détail.
Je t'emmène.
Mais j'ai jamais eu les codes, moi, de la grande culture, Leïla. Vous savez, moi, j'ai été élevé dans un chenil avec des huskies. On n'allait jamais à l'opéra. Bah oui, forcément, avec tous ces chiens. Premier acte, ça va encore, mais après, c'est bête, elles veulent se promener. Hein. Mais c'est intimidant, l'opéra, quand on n'a pas les codes. C'est vrai, moi, j'aurais toujours l'impression d'être en décalage avec un monde auquel j'appartiens pas. Fondamentalement, j'en parlais avec l'archevêque de Paris, qui a le même problème avec la Gay Pride. Il me disait, Ernesto, là, tu me vois sur ce char avec une fausse tub en latex. Mais au fond de moi, tout ce que je veux, moi, c'est rentrer au diocèse. Et je disais, je sais, monseigneur. Après, Gloria Gaynor, vous le tenez bien, quand même. Il me dit, oui, c'est pas qu'une question de disco. Et c'est vrai, c'est une question de code. Par exemple, chaque fois qu'on m'invite dans un concert de musique classique, je me sens toujours débile. Je sais jamais à quel moment il faut applaudir. C'est la honte. Genre, un jour, par hasard, je me suis retrouvé, je sais plus où, là, au concerto pour poil à frire de je sais plus qui, là, un nom en ski ou en F, tu vois, Starsky ou Aruntaziev, je sais plus exactement. Et au piano, il y avait un petit virtuose, comme ça, il devait avoir 17 ans et demi. Tu sentais que ça faisait 18 ans qu'il faisait ses gammes, tu vois. Il faisait des gammes intra-utérines. Il est sorti, il a joué Frère Jacques pour la sage-femme, vraiment. Il était vraiment, et là, il joue et c'est beau, c'est intense et tout. Et à un moment, le petit virtuose, il arrête de jouer. Et là, je me dis, tiens, la chanson est finie. Je m'en vais applaudir. Moi, je suis un garçon simple, j'aime les féculents, vous voyez, dans ma tête on applaudit après les chansons, non, même au concert de Benabar, tu vois, ne fût-ce que par politesse, quoi. Et sauf que là, il arrête de jouer et je vois personne bouge, quoi, grand silence, et je regarde les gens leur dire quoi, c'était pas bien. J'en sais rien, peut-être on lui a demandé un Chopin, il jouait du Manoukian, tu vois, peut-être c'est possible, j'y connais rien. Et là on m'a dit, on applaudit qu'après les mouvements. Je dis, oh là là. C'est confus, cette phrase. Après des mouvements, il a fait plein de bon. Bref. Ce que je veux dire, c'est que les codes, ils sont étranges. Genre, avant le concert, par exemple, il y a une dame qui présente le spectacle et qui dit, je vous promets, elle dit, pour le confort de l'artiste, je vais vous demander de ne pas tousser pendant sa représentation. Et je me dis, putain, c'est quand même chaud, non, de pas tousser, genre, bête exemple. Quand tu dois tousser, tu vois, parce que elle l'a présenté comme si c'était un péché mignon, tu vois. Oui, on aime tous tousser, hein, vraiment. Vraiment, on va le faire après le spectacle. Proprement, on a prévu un petit salon de tout, etc., avec des cigares, du miel. Moi, j'ai pas les codes pour ça, vraiment. Et c'est difficile de se défaire de ces codes. C'est pour ça que je trouve ça bien que vous essayez de sortir de là, en plein air. Allez, bonne émission.
Merci, Guillaume. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Mais là où il a raison, c'est ceux qui se disent, non, je fais pas partie de ce monde-là, c'est pas pour moi. Comment les convaincre?
Il a entièrement raison. Ouais. C'est tellement crétin, ces histoires de code et d'applaudir et d'applaudir. Ça vient que les gens aiment emmerder les autres. excusez-moi, non mais c'est vrai, on adore dire, ah non, là vous avez pas le droit, là vous avez le droit, là vous avez le droit, non, ah, non, ça, ça se fait comme ça, non, là le code c'est ça, non, là le purisme, c'est...
Et quand la bienséance à l'opéra, ouais, c'est ça.
Ouais, des bienséances, et puis savoir qu'on appartient à un cercle qui sait exactement ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. C'est pareil avec les religions, enfin, alors que
tout d'un coup... J'allais dire, à l'église, moi par exemple, j'y connais rien, donc comme je sais pas et que je veux pas trop gêner mais que ça m'intéresse, bah, je chante quand les gens chantent. non mais c'est vrai,
faut pas tousser.
Je bouge quand les gens bougent, quand je vois que ça bouge pas. Et l'opéra, moi pour le coup, je suis née aussi dans un chenil si tu veux, mais...
C'est vrai, moi aussi.
Moi j'y suis allée sur le tard quand j'étais étudiante, qu'en effet il y avait des places pas chères, je me suis dit je vais y aller, et comme j'ai aucun problème avec moi-même et ce que je suis, je me suis dit de toute façon, ils vont pas non plus me refuser l'entrée, donc j'y vais, et puis je regarde, et en effet il y a des moments où j'ai envie d'applaudir, je vois que personne ne bouge, je me dis ça doit pas être le bon moment, et c'est comme c'est ça qu'on bizarre, apprend quoi. Et j'y suis pas allée en costard, j'y suis allée en basket et en jean, et au
mais
fond
tu vois,
je suis
pose,
propre
on
quoi.
Se pose même la question de savoir comment s'habiller,
mais je oui, sais mais, parce mais... que dans les James Bond ils sont en queue de pie et tout, tu te dis mais moi j'ai un survêt taquini,
aller à l'opéra, aller à l'opéra, faites le test, aller au théâtre des Champs-Élysées par exemple où il y a de très très beaux concerts classiques, vous pouvez venir habiller comme vous voulez. Alors il y a des gens qui sont sur leur 31 pour le coup, ce qui fait qu'il y a aussi un spectacle dans la salle quand on s'ennuie. Moi j'aime bien regarder les vieilles dames, les vieux messieurs, ça sent différemment. Enfin, il y a tout un.
Ça sent différemment. Ouais. Tu vois, je connais Ronnie.
Mais c'est vrai.
Que tu regardes
les tournées. Franchement, mais franchement,
ça sent la vieille dame. Non,
mais,
c'est,
mais un public d'opéra.
Ça sent quoi la vieille dame?
Non, mais ça sent pas que la vieille dame.
On embrasse tous nos auditeurs.
C'est d'autres parfums. C'est
alors,
d'autres...
si vous allez à l'opéra et qu'il y a une jeune fille qui vous renifle la perruque, c'est Lila qui adore Bonadier. Hein.
Je m'étonne qu'elle ait été élevée dans un chenil.
Vraiment?
Non, vous en sortirez jamais.
Je trouve ça fascinant parce que.
T'as la fin de l'opéra pour revenir?
Je trouve ça fascinant parce qu'il y a plein de gens que je vois jamais ailleurs. Que des types quoi, des morphotypes même, et je trouve que il y a des odeurs très très différentes. Moi je trouve ça fascinant. Il y a des parfums, il y a des parfums par exemple, des parfums qu'on ne sent plus de personnes un peu plus âgées.
C'est la mort.
Voilà, des autres toilettes, des autres toilettes.
Merci, moi, merci. On va raccompagner Laïa.
Viens, on va boire.
Et Guillaume, je t'emmène la prochaine fois l'opéra et on va rigoler parce qu'on peut boire à l'entraxe.
Il y a les deux messieurs en blanc qui vont t'accompagner quelque part.
Avec un petit manteau très joli, tu vas voir, les manches sont un peu serrées, mais c'est joli.
Oh, le
enfin, on
de
sera en plein air, donc rassurez-vous, ça sentira.
L'opéra en plein air.
Je vais avoir des ennuis avec les victoires classiques.
Non.
Avec nos auditeurs, oui, mais pas
mais
avec
non,
les victoires.
Mais c'est vrai.
T'es en train de
test.
Créer un truc. Nous allons parler de la bande originale d'Agnès Jaoui. Vous l'avez compris, la musique et sa deuxième source de vie et d'ADN. Dans les années 60, elle aimait écouter les.
Les années 60, ouais, ça va. Les années 50, 40.
Les années 60.
Mais t'es pas
né! Ils étaient sympas, les frères Lumière ou pas?
Les années 60 vont jusqu'en 69. Jusqu'en décembre 69, ça.
Mais
va.
Là non plus, j'écoutais rien. J'étais...
Et Sardou, il était sympa.
Victorien, bien sûr.
Léo Ferré, c'est pas le genre de chanson que vous entendiez à la maison quand vous étiez
c'est mon papa. On m'a demandé ma naissance. L'année de ma naissance est 64, je l'ai dit. Et donc voilà, et dans les années 60.
Papa écoutait Léo Ferré.
Papa écoutait Léo Ferré et moi aussi, oui.
Vous fâchez pas.
Non.
C'est moi qui viens après.
C'est surtout intemporel.
Elle va dire que je sens pas bon bientôt. Donc,
elle est à deux doigts de renifler.
Ouais, voilà.
Non, mais il y a un truc dans les odeurs, vous vous rendez pas compte.
Ah, si,
la
si,
poudre.
Si.
La poudre, ouais, voilà, un truc poudré. En tout cas, on est en 64.
Je sais pas où on est.
On écoute Léo Ferré, arrêtez. Vous allez vous m'aider pas du tout.
Je vais faire un tour.
Agnès, vous écoutiez ça. Enfin, en tout cas, votre père écoutait ça. Et dans les interviews, on comprend que vous êtes né dans une famille engagée. Dans une famille où on discutait aussi beaucoup. Vous parlez aussi de vos origines juives, de la façon dont vous vous définissez aussi par rapport à ça.
Oui.
Vous êtes des scouts sionistes marxistes.
Mes parents, oui. Ouais.
Ah, d'accord.
Donc c'est un milieu quand même, somme toute,
c'est
assez
engagé. C'est la Shomerat Zahir, ça fait un peu bizarre dit comme ça, le scouts sionistes marxistes, mais... Oui, c'est ça, c'est des gens de gauche. Et oui, c'est tout.
Et, maman psychothérapeute. Donc ça veut dire que à la maison c'était un climat de d'échange, de discussion, de débat, de prise de tête. Qu'est-ce qui se passait à la maison?
La parole était extrêmement libre. Hein. On parlait absolument de tout. C'est pour le coup les années 70. Pardonnez-moi, mais enfin je veux dire toute cette mouvance de liberté, de croyance dans un avenir meilleur, de liberté sexuelle. Et donc, voilà, c'est aussi des 68 arts. Enfin, bref, je sais pas comment, chaque fois, comment une étiquette, elle est très réductrice, évidemment. Mais effectivement, tout ça, c'est une famille, en fait, très particulière. Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point elle était particulière.
En 75, vous découvrez le journal d'Anne Frank et vous écoutiez.
Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris, mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, oh. Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion, en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards.
Les loups sont entrés dans Paris, qui pourrait toujours être d'actualité,
oui,
cette chanson.
Oui, j'ai trouvé qu'elle était malheureusement d'actualité. Ouais.
Dans ces années, découvrir le journal d'Anne Frank, ça veut dire... Vous êtes toute gamine. Comment on se retrouve avec le journal d'Anne Frank à une dizaine d'années?
Je sais pas,
C'est les parents là aussi qui vous disent faudrait que tu lis ça.
Je me rappelle pas du tout qui et comment, mais mes parents lisent beaucoup, moi aussi, et je sais pas comment je me suis retrouvée avec ce livre dans les mains. Peut-être que aussi on est allé visiter sa maison, vous savez, à Amsterdam, qui est un musée tout à fait émouvant, enfin marquant, bouleversant,
Et c'est comme ça que vous êtes identifié un tout petit peu à elle.
Je me suis complètement identifiée. Ouais. Je me suis mise à écrire à partir de là, parce que le fait qu'elle écrit son journal fait que elle a beau avoir fini dans les camps, elle existe à jamais. Et je pense que j'étais déjà tout à fait inquiète par l'idée de ma propre disparition, et pas seulement, de la
fragilité de la vie.
Voilà. Mmh. Et du coup, oui, ça a été très déterminant, cette rencontre, si je puis dire.
Ouais, vous racontez aussi dans une interview que à la découverte d'une chanson, je crois, qui a été écrite par votre père ou votre grand-père, il y a un texte qui vous donnait une sorte de mélancolie. J'ai trouvé ça hyper touchant. Je vous imaginais enfant comme quelqu'un qui avait déjà la conscience de la fin. Des chansons de la libération.
Ah oui, oui, oui. Mais ça n'a
et la marche de la deuxième DB, non, c'est votre père qui avait ce disque-là, oui. Et en l'écoutant, en fait, il y avait une sorte de sentiment de revivre l'histoire, un truc...
Je suis tombée en amour avec ce disque, et effectivement, je les connais toutes, Mon cœur est un violon sur lequel ton archer joue, et c'est une fleur de Paris, enfin bon bref, il y avait la libération de Paris, la marche de la deuxième BD qui fait tadam, 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 et d'ailleurs, pareil, tout ça, c'est de la musique et tout ça entraîne, ça vous prend aux tripes. Là, c'est de la musique militaire, mais ça fonctionne, oui, évidemment aussi. Et c'est vrai que je me mettais devant mon miroir et j'avais l'impression que j'étais le maréchal Leclerc, je libérais Paris, les larmes montaient aux yeux.
C'est formidable ce que fait passer la musique finalement,
c'est incroyable.
Comme émotion, qu'elle soit des wagnériennes où on a envie d'envahir un pays, pour reprendre Guy Bedos,
Woody Allen.
Ou cette marche militaire, ou la Tosca avec...
qui vous fait acheter un produit de lessive, enfin oui, oui bien c'est sûr, ça. Et puis pareil, ou
c'est un vecteur d'émotion, la musique, ouais. Mais
immense, et dans les films, c'est ce qui fait aussi toute la différence, c'est ce qui va vous emporter, parce qu'en plus, c'est subliminal, plus ou moins, donc vous vous rendez même pas compte qu'en fait vous êtes manipulé, agi et emporté vers tel ou tel sentiment, donc effectivement c'est une puissance folle et consolatrice aussi.
1992, vous écoutiez Black. Wonderful Life.
Et en 92, c'est un Molière qui arrive pour couronner votre travail avec Jean-Pierre Bacri. le Molière de l'auteur francophone pour Cuisine et Dépendance. C'est un peu la première récompense d'une longue liste et qui scelle aussi le succès d'une collaboration. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre de démonstration des professionnels pour les Molières, par exemple ?
Oui. Oui, enfin, bien sûr, si, oui, je suis touchée, émue, enfin, bref, ça me fait plaisir, flattée.
Mais
mais il faut raison garder, parce que il y a des choses nulles qui sont célébrées, des choses sublimes qui ne le font pas.
Lorsque vous voyez cette célébration et que vous jugez que ce qui reçoit le prix est nul, vous reposez la question en vous disant finalement, est-ce que c'est si nul que ça ou est-ce que j'ai pas été trop sévère avec avec ce jugement ? Moi, j'ai trouvé nul, mais si tout le monde dit que c'est bien, après tout. Vous reconsidérez un jugement ou pas en
oui,
fonction d'une récompense ?
Oui, mais c'est pas forcément les prix, c'est pas du tout les prix qui me font reconsidérer un jugement.
Le succès public ou le.
Non, des potes. C'est plutôt des gens que j'estime et qui vont me dire attends, mais moi, je vais essayer de comprendre. Pourquoi, tel pote que j'admire ou que j'estime a été touché par qu'est-ce que j'ai raté quoi.
Oui, parce qu'au fond, on peut se demander aussi quand on crée, si on a pas le goût pas juste, mais si on sent les choses.
Le fameux goût des autres.
Oui, le goût des autres, parce que quand on voit des succès publics et on se dit alors je suis complètement passé à côté, soit c'est que je suis pas du tout en phase avec mon époque, soit j'attends autre chose. J'imagine qu'on se pose des questions sur. Sur ça.
C'est pas toujours la masse qui.
Non, justement, c'est pas la masse.
Non, ça serait.
C'est sûr. Mais pour autant, ça veut pas dire que si la masse trouve quelque chose de bien, qu'elle n'a pas raison
masse.
Aussi.
Il y a le grand public, enfin, ou la masse, ou les chiffres, et puis il y a les critiques aussi. Et des fois, moi, je suis d'accord ni avec les uns ni avec les autres. Et des fois, je suis tellement d'accord avec moi-même que je n'ai pas de doute. Et puis des fois, j'ai des doutes, ou des fois, ou sur ce que je crée, en me disant, mais peut-être ça plaît plus, ou ça plaît pas, ou ça plaît pas. Mais oui, mais c'est intéressant, c'est vivant.
Et comme toute mise en scène, comme toute œuvre et création, vous serez attentive à ce que l'on vous dira sur la Tosca ?
Je serai d'abord attentive à ce que, à comment vont percevoir. Encore une fois, ça commence par mes amis. Je suis désolée, mais par mes proches, par ressentir, par voir ce qu'ils ont ressenti, là où ils sont ennuyés, là où ils sont. D'ailleurs, je vais demander à Jean-Pierre de venir à des premiers filages, etc. Et puis après, je serai sensible à la perception. Je vais assister à toute leur représentation et je serai sensible à ce que je perçois de ce que perçoit le public.
Y compris ce que les sopranos, les ténors vont vous dire, parce qu'ils l'ont déjà interprété aussi dans différentes mises en scène.
Pas toujours. Il y a des prises de rôle, comme on dit, sur cette création.
On dit prise de rôle pour une première fois.
Prise de rôle, pour l'instant, ils me disent pas, ils me parlent pas de la mise en scène. D'ailleurs, ils la connaissent pas encore si bien parce qu'on a travaillé surtout au plateau, on commence à travailler dans le décor à partir de lundi. Ils savent pas tout ce que je vais faire. Par contre, ils voient comment je travaille sur chaque scène et pour l'instant, ils ont l'air plutôt contents que je connaisse bien la partition.
Ouais, c'est un avantage énorme finalement que vous êtes aussi une chanteuse lyrique, donc ça veut dire que vous savez ce qui est faisable, vous savez quel temps il leur faut un moment. Enfin, vous leur demandez pas des choses impossibles non plus. Il y a une vraie connaissance aussi de leur pratique.
Je crois, oui.
On va parler avec Chantal Cazaume. Bonjour Chantal, merci de venir à ce micro. Vous êtes musicienne, enseignante, critique musicale, rédactrice en chef de l'avant-scène opéra, auteur de Puccini, mode d'emploi, paru en 2017 aux éditions Première Loge, l'avant-scène opéra. On a expliqué tout à l'heure comment était née la Tosca, d'abord en pièce de théâtre avant de devenir l'opéra de Puccini. Comment lui a découvert la pièce de théâtre ? Il est venu à Paris ?
Très tôt, non, c'est la pièce de théâtre qui est venue à Puccini. Il s'est précipité à Milan dès que Sarah Bernard a fait ses premières tournées, puisque Sarah Bernard a donné la Tosca en Italie, en français évidemment, et il l'a découverte dès 89, deux ans après la création parisienne, une première fois.
En 1889.
Sarah Bernard est revenue plusieurs années plus tard, en 1895, toujours en Italie. Et à nouveau, il s'est précipité. Et c'est ça qui a vraiment accroché Puccini. C'est la découverte du théâtre, en fait. Et il réagissait souvent à ça.
Avec sa volonté de modifier un tout petit peu l'histoire.
Oui, bien sûr, évidemment.
De la rendre plus...
Voilà, plus condensée.
Concentrée.
Beaucoup plus concentrée, beaucoup plus rapide.
Parce que la musique est chronophage aussi. Donc,
la musique est chronophage. Et puis, c'était une pièce avec énormément de personnages. Je crois qu'il y a 23 personnages dans la Tosca de Sardou.
Ah, oui.
Il en a fait un opéra avec 3 protagonistes. Donc, c'est quelque chose de concentré. Mais comme une petite lessive concentrée, quoi. Et c'est vraiment l'aspect théâtral qu'il a. Il savait sentir, Puccini, le potentiel théâtral et opératique d'une pièce.
Alors, ça finit mal, on l'a dit tout à l'heure, et comme pour paraphraser Agnès Jaoui, c'est un opéra, ouais. Donc c'est un drame, ce qui le rend encore plus fort, encore plus célèbre, culte. C'est sa musique, c'est...
Sa musique, oui, c'est vrai, parce que c'est sa
que
musique.
L'histoire parle à tout le monde.
L'histoire est universelle, elle est très facilement transposable. C'est assez original parce qu'en fait, elle est à la fois très ancrée dans son décor. C'est Rome, l'année 1800, donc ça peut être très ancré dans le décor de Rome et dans l'histoire napoléonienne et de l'histoire de l'Italie. Et en même temps, c'est très facilement transposable. C'est une histoire de bien et mal qui s'opposent, d'amour et de mort, de foi, de blasphème, de rapport...
De trahison, de confiance.
De trahison, ouais. De confiance, de liberté, d'autorité tyrannique. Donc vous pouvez transposer ça dans n'importe quel cadre. Ça parle à tout le monde et c'est extrêmement facile à recevoir.
Tout à l'heure, j'évoquais le fait que certaines mises en scène soient imposées par soit Puccini, soit par une espèce de cahier des charges ou de bible de l'opéra. Justement, il y a des figures imposées dans cette mise en scène où il y a une liberté qu'Agnès Jaoui pourra exploiter.
C'est vrai qu'il y a des figures imposées. Agnès Jaoui en a parlé tout à l'heure. Il y a la fameuse pantomime du meurtre de Scarpia qui a été pour la première fois créée par Sarah Bernhardt et qui a été reprise ensuite et qui s'est installée dans la tradition. Disons que depuis plus d'un siècle, maintenant, on peut considérer que la tradition sait faire le tri. Donc, ce qui reste, c'est généralement que ça reste parce que c'est plutôt bon. Que ça marque le spectateur, ça a un poids du geste théâtral pendant la musique qui se développe. C'est efficace, donc pourquoi le changer ? Mais la tradition est assez libre aussi. Et en fait, dans cet opéra, on a des personnages qui tous, à un moment ou à un autre, font de la mise en scène. Ils sont tous metteurs en scène de l'histoire à un moment ou à un autre. Et précisément, Scarpia, le méchant, et Tosca, la victime. Et eux-mêmes vont jouer du mensonge. Scarpia va faire semblant de délivrer un sauf-conduit qui est censé pouvoir libérer les gentils. Et puis finalement, il dit à son sbire, non, mais le sauf-conduit, on va pas les libérer, on va les tuer de toute façon. Tosca fait semblant d'accepter de se donner à Scarpia. Et finalement, elle sait déjà dans sa tête qu'elle veut le tuer. Donc, ils sont tous metteurs en scène. Et ça, les metteurs en scène, parfois, s'en emparent en faisant du théâtre dans le théâtre. Tosca, c'est quand même un personnage de diva. C'est une cantatrice. Le personnage, son métier, c'est de chanter.
C'est cantatrice, c'est ça.
Donc, les metteurs en scène aiment bien aussi jouer avec la cantatrice qui interprète une cantatrice.
La mise en abîme.
Et c'est ça qui a fait aussi que ce personnage est devenu culte.
Est-ce qu'il y a eu des polémiques de mise en scène déjà sur Tosca ? Est-ce qu'il y a des attentes d'une...
Je dirais des polémiques, non, parce que disons que parfois des
tentatives de changer des fins, parfois d'opéra, oui, ou de moderniser tellement la mise en scène que ça en devenait
choquant. Oui, alors dans Tosca, c'est surtout, c'est pas tellement de l'ordre de la polémique, mais Tosca est un opéra violent avec des scènes de torture, de meurtre. Donc disons qu'on a pu voir parfois des mises en scène qui aller dans un réalisme très, très fort. Et d'ailleurs, l'œuvre s'y prête et l'œuvre l'appelle aussi. Hein. Donc, on peut avoir parfois...
C'est
assez gore, oui, c'est vrai. On peut avoir des spectateurs qui vont être un peu frappés par la nature comme à la création. Ça,
et d'ailleurs, à la création, ça s'est arrêté au bout de 3 représentations,
c'est... Non, ça s'est pas arrêté, mais ça a fait un gros scandale au début sur parce que c'était considéré comme trop, trop violent, presque grand guignol. Mais les représentations ont continué, mais ça a commencé par un four, vraiment des grandes huées et un gros scandale. Et très vite après, ça s'est transformé en succès. Il y a plein d'opéras qui ont eu ce genre de début, d'abord un four. Et dès la deuxième, 3 jours après, c'est un grand succès. Ouais. Le Barbier, par exemple.
Merci Chantal d'être venue à ce micro. Tanguy Passureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Les Anglais ont de gros pouces, dites-vous.
Oui, mais oui, selon une étude, ils sont plusieurs millions à avoir un pouce plus gros que l'autre. Et pas parce que c'est une île et qu'à force de faire l'amour ensemble, il y a de la consanguinité. Hein. Ils ont des migrants eux aussi pour se mélanger un peu. Non, c'est qu'à force d'être sur leur 06, leurs mains sont en train de muter. Le smartphone nous transforme physiquement.
Et on en parlera tout à l'heure avec Tanguy.
Bon.
bande originale avec Lila Kadoboudadi, Daniel Morin.
Bonjour Lila.
Tom Villa.
Bonjour.
Et Guillermo.
Oh la cognon.
Et notre invité Agnès Jaoui. Agnès Jaoui qui met en scène cet opéra en plein air, Tosca de Puccini. C'est d'ailleurs surprenant que ce soit la première fois qu'on vous le propose. Leïla a raison, tellement tout est là pour que vous le fassiez.
Moi, je l'aurais fait il y a longtemps. Je l'aurais proposé il y a longtemps.
Chanteuse lyrique, réalisatrice, metteuse en scène, tout est là pour... On vous l'a déjà proposé, vous avez refusé avant ?
Un peu, oui.
Ah. D'accord, c'est honnête de le reconnaître. Donc avec différentes dates, la première étant dans à peine deux semaines, le 14 et 15 juin au domaine de Sceaux en région parisienne, puis le château de Vincennes les 28 et 29 juin, le 2 juillet à Carcassonne, 5 et 6 juillet au domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 4, 5, 6, 7 septembre cette fois-ci aux Invalides, et vous serez de toutes les représentations. Parce qu'il y a toujours quelque chose à régler.
Oui, et puis parce que j'en ai envie, parce que c'est tellement beau que voilà. Et puis la musique, elle a ça aussi d'incroyable. Enfin, la grande musique, c'est que plus on l'écoute, plus on l'aime. Moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré un amoureux et de, vous savez, c'est cette phase où vous découvrez chaque jour que c'est encore mieux que ce que vous croyez. Enfin voilà, des nouvelles phases de
oui,
cet
c'est
être incroyable.
Ça passe vite en général.
Et ben là, ça passe pas du tout.
Ah bah tant mieux.
Ça va, plus je l'aime.
Oh là là.
Ça a duré 15 jours, toi, Daniel.
15 heures.
Oh oui.
On parle de Puccini, on parle de la Tosca, de cette pièce de Victorien Sardou, de votre travail de mise en scène, et Marie-Laure, une créatrice vidéo aussi, à qui vous avez demandé...
Marie-Laure Roquet, okay, oui.
Voilà, oui, mais qui a comme pseudo le Marie-Laure...
Ah oui, c'est vrai, pardon.
M-A-R-I-L-O-R.
Absolument.
C'est son pseudo. Oui, une artiste visuelle à qui vous demandez une création de vidéo sur des écrans, des projecteurs,
oui,
c'est ça ?
Exactement.
Qui sera aussi bien une réalisation en direct qu'une préparation avant.
Non, ce ne sera pas en direct. Tout est filmé avant et travaillé la matière aussi du.
D'accord.
Et après, ce sera projeté pendant, mais c'est pas du direct.
Très bien. Tosca Puccini, on continue d'en reparler, mais d'abord voici Tanguy Pasturo. Tanguy, vous nous dites que le pouce est un doigt qui jusqu'à présent ne servait à rien.
Non, il était inutile, au même titre que le jean slim chez le Dalai Lama. Certes, à la petite école, quand on faisait pouce, ça permettait d'arrêter tel ou tel jeu. C'était l'ancêtre du mode pause sur la télé d'Orange. Ouais. Que parfois j'actionne pendant N'oubliez pas les paroles afin de reluquer une candidate un peu hot.
Mais ça va pas.
Malheureusement, le temps de latence étant d'une seconde et demie, entre le moment où on appuie et celui où la pause se fait, à chaque fois ça s'arrête sur vous, Nagui. Ma sexualité s'en trouve assez perturbée.
Je comprends.
Et encore plus loin que la petite école, sauf pour Gérard Collomb qui a connu les deux, dans la Rome antique, un pouce vers le bas signifiait qu'on voulait la mort du type qui venait de se battre dans le cirque. On retrouve ce principe aujourd'hui pour les vidéos YouTube. Sous chacune de mes chroniques, il y a 400 pouces vers le haut et 4 connards qui ont choisi celui pointant vers le bas. Des enfoirés, des raclures de bidets qui à leur mort croupiront en enfer avec Slobodan Milosevic et le parolier Dayan Nakamura. Tu ne connais pas Auditeur d'Inter, c'est une chanteuse de R&B qui n'a jamais fait duo avec Thomas Fersen. Sur internet, toute la journée, on se met des pouces. Dans la vraie vie, c'est différent, il faut bien connaître la personne pour faire ça. Enfin, notons qu'en plongée sous-marine, un pouce vers le haut signifie qu'on remonte. Et en radio, ça veut dire « il était top ton papier, bébé ». Geste que je ne désespère pas de vous voir faire un jour, Nagui, à l'issue d'une de mes chroniques. Bref, jusqu'à présent, le pouce servait à peu de choses. C'était un membre inutile, les bûcherons québécois qui se le coupaient par accident disaient « rien à foutre, on est des durs, on est sur notre 40e année de chanteuse à voix, c'est pas un bout d'os et du sang qui gicle partout qui va nous faire peur », et jeter le pouce aux ours. Puis est apparu le smartphone, cette extension de nous-mêmes qui fait qu'on a l'impression de n'être jamais seul alors qu'on ne l'a jamais autant été. Petite dimension sociologique, critique de l'époque, comme ça l'éditeur se dit « il s'est pas foutu de nous, Pasturo ». Je vise le zéro pouce vers le bas sur cette chronique. Sans pouce en effet, comment manipuler un smartphone? C'est pas simple, sauf au Cap d'Agde où la tradition locale veut qu'on fasse défiler son fil Twitter
non,
avec
non.
le sexe.
Non.
Ah bah si, c'est parfois pénible chez le dentiste. Vous arrivez dans la salle d'attente, 7 gus sans slip répondent à leur mail. C'est plus intimidant que les soins dentaires qui arrivent derrière. Nous sommes accros à nos portables, au point qu'un opérateur téléphonique anglais a fait une étude sur les habitudes de ses abonnés, et c'est ouf, comme dirait Faudel en interview si quelqu'un lui demandait une interview. Ainsi, un Britannique sur 5 dit ne plus pouvoir se passer de son smartphone. Il ne se douche même plus pour ne pas le quitter. Les types sont couverts de croûte. Vous appuyez en dessous, c'est mou. Même principe que pour la crème catalane. 20% s'endorment même avec leur smartphone. Mais ça, ça m'arrive. Hein. Insomnie, je me mets une vidéo de Pierre Moscovici qui parle des institutions européennes. Je pars direct, Nagui.
Mais pire que ça, vous me dites que 30% des utilisateurs ont constaté un changement sur leur corps.
Oui, et notamment du pouce qui leur sert à balayer l'écran, qui serait 15% plus gros que l'autre pouce qui ne sert à rien. Ah ouais. En cas d'attaque de pitbull, tendez-lui votre pouce gauche si vous êtes droitier, sinon c'est fini Instagram. Le pouce est en train de muter. Les Anglais qui n'avaient déjà pas un physique facile, à part David Beckham, se transforment. Ils ont un pouce super musclé, avec ils ne font plus de stop. Hein. Non, ils peuvent directement arrêter un véhicule lancé à 110 km/h, puis monter dedans. En Angleterre, une pichenette dans l'oreille, votre tympan est détruit. Le prince Harry, une fois, a mis son pouce dans le gosier du petit Archie pour le calmer. Ça a pris toute la gueule du bestiau. Le gosse a fait 25 minutes d'apnée. Le record de la discipline est tombé. Donc là, l'opérateur a demandé à ses abonnés s'ils constataient d'autres changements. Hein, les gens se sont longuement explorés, notamment avec leur gros pouce. Donc l'île n'a plus été qu'un long cri d'orgasme. Et surprise, pour 4 millions de gens, leur petit doigt aussi est en train de se transformer. Il se courbe. Parce que H24, il est sous le 06 pour le caler. Bref, les mains des Anglais, ça devient n'importe quoi. Un pouce énorme, un doigt de traviole, les gonzes à l'état naturel ont la même main que si à Fort Boyard dans une amphore, un rat moins sympa que les autres la leur avait bouffé. Mais nous, en France, on est pareil. Hein, dans la rue, toute la journée, des gens me foncent dessus. Au début, j'ai cru que c'était parce qu'ils me reconnaissaient. Je commençais à dire à mon psy, j'en peux plus, le showbiz, la célébrité. Il me répondait, Benoît Hamon n'a pas ce problème. Hein, mais je me suis vite aperçu que tout le monde en marchant, en fait, est sur son smartphone. Les mecs vous arrivent dessus. Vous êtes obligé de crier « Je suis là !» Et c'est vous qu'on prend pour un malade. Hein, donc nos mains à nous aussi se transmutent. Nagui, votre téléphone ne vous quitte jamais. Hein, au point que le matin, je vous dis « Salut, vous deux, ça va ?» Eh ben regardez votre pouce. Hein, mais pardon, personne ne vous n'ose vous en parler, mais les SMS, votre pouce, une lettre sur deux, il est trop grand pour la taper. Parfois, il n'y a plus que des voyelles. Hein, si vous écrivez à Laurent Romeshko pour lui dire « Mon poulet, il n'y a que toi et moi que la mère Ernotte, elle a pas viré. Moi, parce que je fais de l'audience, et toi, parce que si on arrête les chiffres et les lettres, il va y avoir des émeutes dans les EHPAD. Il va vous dire « Je ne comprends rien, fais des mots hein, !» Mais le pouce qui grossit, ce n'est pas irréversible. 3 mois en zone blanche, en Ardèche ou sur l'île de Ré, dans la salle d'eau de Lionel Jospin, hop, le pouce reprend sa forme normale. Franchement, on n'est déjà pas bien beau, on n'a pas besoin de ça.
Merci Tanguy Passion. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Nous parlons aujourd'hui de la Tosca de Puccini, mise en scène par Agnès Jaoui, en direction artistique avec la direction musicale de Yanis Pouspourikas, la scénographie de Philippe Miège. Qu'est-ce qui différencie la mise en scène de la scénographie?
Je sais pas pourquoi on appelle ça scénographie en opéra, mais enfin au théâtre aussi. Bref, c'est du décor.
Alors, oui, c'est un technicien.
Ouais. Non, c'est un créateur de décors et évidemment ça influe aussi sur la mise en scène, mais nous travaillons de concert.
Et pour les costumes, Pierre-Jean Larocque.
Oui, Pierre-Jean Larocque qui vient d'avoir son Xème César pour le film de Mouret et qui fait un travail merveilleux.
La lumière de Jacques Rouvérolis, la création vidéo de Marie-Laure, on l'a dit. Stéphanie Frolliger, vous aide,
je vous en prie, c'est mon assistante, ma collaboratrice.
Et Anne Gravoin qui s'occupe de la sélection d'orchestre, c'est ça oui. C'est pas la direction de
musicale. Non, c'est elle
musicale,
qui réunit cet orchestre.
C'est Yanis, l'orchestre. Voilà. Tout cela avec la maîtrise des hautes scènes, les chœurs d'enfants de l'Opéra National de Paris également. Comme c'est en plein et comme les lieux eux-mêmes vont évoquer quelque chose, ça doit changer aussi de se retrouver entre le parc de Sceaux et la cité de Carcassonne. On n'est pas du tout dans le même contexte, ça fait partie du décor aussi.
Alors justement,
les Invalides aussi sont présentes.
Oui, mais on a essayé de créer un décor qui puisse s'adapter aux lieux, voilà, et et aussi dans l'image, je vais essayer, à chaque fois, on va filmer avant, c'est aussi pour ça que je vais être là à chaque fois, pour que ça s'intègre à chaque fois dans le décor, voilà, pour faire des espèces de trompe-l'œil, de, voilà, pour nous amuser aussi avec le décor.
Qu'est-ce que vous êtes donné comme but à atteindre? Le rendre le plus fluide possible, le plus dramatique possible, c'est d'en faire un jeu, finalement, de prendre du plaisir?
Encore une fois, c'est de rendre toute sa splendeur et de faire que de l'émotion que je ressens soit partagée par d'autres.
Et alors, pour ressentir cette émotion, vous avez revu différentes versions?
Ah, j'en ai vu 3000. Mais... ouais, non, mais c'est vrai, c'est intéressant.
Parce
c'est
que la Calas a été captée, je crois.
Le second acte, oui.
D'accord. Partie, ouais. Pas la totalité.
Je crois pas à ma connaissance, d'accord. Mais j'ose plus rien dire depuis que je sais que Sardou n'est pas le.
N'est pas Michel Sardou.
N'est pas Michel Sardou. N'a pas son père, enfin bon, bref. Non, mais je, à ma connaissance, donc.
Et d'avoir vu toutes ces versions qu'elle vous ait dit, là, ils font toujours la même chose. Il y a des choses qui vous saoulent, il y a des choses que vous avez voulu carrément changer.
Ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des fois, en fait, je ne comprends pas, et ouais. C'est parce que, bah, voilà, je pense que c'est une déficience de la mise en scène, et puis des fois, au contraire, je comprends tout. Des fois, c'est. Enfin. Ce qu'il y a des très belles mises en scène et des moins intéressantes, voilà.
Mais quelle est la définition d'une belle mise en scène? Vous dites je comprends pas, ça dépend de la mise en scène.
Des fois, je vois bien que les acteurs.
C'est une vraie nouvelle écriture, la mise en scène. Ça peut changer la compréhension du texte, de la musique, de.
Oui, enfin, moi, je leur demande de toujours penser à ce qu'ils disent et à ce que. Alors, je sais que c'est compliqué parce que justement, il y a des notes à atteindre, il y a un chef à regarder, un rythme à respecter. D'un autre côté, s'ils ne savent pas, et même hier j'ai fait répéter les enfants, je leur disais, mais qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui demandez quelque chose là au sacristain? Vous lui dites, est-ce que c'est, il paraît, enfin, lui vous annonce que c'est une victoire, vous lui dites, mais non, c'est des racontars, et puis finalement, il lui dit, non, c'est vraiment une victoire, et on va la fêter au Palais Farnèse, et vous devez être super content, parce qu'il vous dit ça. Ben, ça fait une grande différence quand ils savent ce qu'ils vont chanter, enfin, quand ils pensent au sens, et quand ils n'y pensent pas. Ça fait une différence de perception pour le spectateur.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas que le visage, en fait. Il n'y a pas que l'expression du visage. Ouais.
C'est l'intention.
À la limite, la note peut changer.
Mais oui, la manière et la dont note, elle est importante. Ouais. Mais ouais. ce que vous y mettez, c'est comme un interprète en variété. C'est-à-dire que une belle voix, c'est une belle voix, ok. Mais s'il n'y a pas l'interprétation, l'intention, quelque chose que vous voulez faire passer, il manque les trois quarts pour moi de votre art.
Une mise en scène d'un opéra en plein air repose aussi sur la position d'un bras, d'un déplacement, oui. Est-ce que j'ai les épaules tournées vers le public ou vers la personne à laquelle je m'adresse? Ça se joue au détail, au millimètre près, vraiment?
En tout cas, je pense qu'il y a une certaine chorégraphie aussi avec les chœurs. Souvent, les chœurs sont un peu laissés. Voilà, bon, c'est, faut dire que c'est dur à manier parce que il y a beaucoup de gens. Voilà, il y a une énergie à déployer assez grande, mais on a l'impression qu'ils sont un peu voilà abandonnés ici sur le côté ou quoi, ou qu'ils font des grands. Bon, bref. Ils sont pas forcément dirigés aussi. Et là, j'essaie de aussi leur donner des intentions de jeu. Et aussi, Catherine Lenouvel, qui est une chorégraphe et une prof de danse, m'aide aussi pour chorégraphier un peu tout ça. Parce que là aussi, visuellement, des fois, de façon très simple, vous pouvez avoir des chocs émotionnels. La danse, j'aime énormément aussi la mise en scène de danse, enfin, les chorégraphies. Et ça vous procure aussi beaucoup d'émotions. En fait, c'est qu'il y a plusieurs arts qui vont se mélanger. Ouais. Il faut qu'ils se mettent en valeur et que l'un ne tue pas l'autre. Parce que des fois, effectivement, avec l'utilisation de la vidéo, on est trop pris par l'image ou par le son. Enfin, des fois, ça peut, même en chorégraphie, la chorégraphie peut tuer le son, la musique peut tuer. Enfin, voilà, il faut faire collaborer tous ces arts pour qu'ils donnent le meilleur chacun. De même, voilà.
Et le surtitrage, c'est pas un risque encore de parasiter
C'est totalement un risque, vous avez raison, et mon rêve serait de, comme dans les spectacles de Wadi Mouad, où il a réussi à les intégrer au décor, oui. Et au bout d'un moment, vous oubliez, ça parle en cinq langues, et vous êtes... comment on dit, pas bilingue, trilingue, quadrilingue,
enfin, polyglotte, bon,
voilà. Personne m'en forme.
Vous êtes polyglotte, personne, voilà. Merci.
Personne.
En fait, les surtitres sont tellement intégrés que on les voit plus.
Voilà, mais là, ce sera pas le cas parce que, bref. Mais je vais essayer aussi, mais ça, nous verrons dans un autre temps, d'en mettre quelques-uns dans l'image, ouais. C'est-à-dire les phrases principales, parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas si compliqué à comprendre, hein, la Tosca. C'est assez simple, hein,
c'est souvent répété. Il faut dire que c'est souvent répété dans l'opéra, donc c'est vrai qu'on a besoin de lire une fois et ensuite on peut revenir vraiment avec la scène, quoi, et avec les interprètes, sans forcément être collé au surtitre.
Oui.
Il y a déjà eu de grands noms qui sont venus, Julia Migueles, Johnson, Julie Depardieu, PPDA, Francis Perrin, Christophe Malavoie, Elie Chouraki, Francis Huster, Jacques Attali, Julie Gayet ou encore Radu Mihailenu pour mettre en scène ces opéras en plein air. Est-ce que vous les aviez déjà vus? Est-ce que vous avez déjà assisté à un ou plusieurs de ces opéras en plein air ou c'est la toute première fois?
Non, c'est la première fois.
Toute première fois. Daniel Morin, on voit bien que le Nouveau Paris d'Agnès Jaoui, cette mise en scène, tente de plus en plus de personnalités. Zabou, également Bretman, Michel Faux ou même Jacques Attali, c'est un challenge, une façon de se confronter à un art noble.
C'est le... Oh, ça c'est de l'organe. Tendu, vibrant, chaud, enveloppant, viril, mais modeste. Putain, je me kiffe. En revanche, il y en a un que je peux pas blairer. Vous savez qui c'est? Celui que je peux pas blairer, c'est qui? Ah, c'est Monsieur Guy. Oui, non, je ne peux pas, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Je me sens comme Laurent Wauquiez, faible, moribond, abandonné, humilié. Si vous aviez touché un euro, Monsieur Guy, chaque fois que votre bouche laissait passer une connerie, vous serez millionnaire! Oh, d'ailleurs, vous l'êtes. Comme quoi, ce que je dis doit être vrai. Ah, et que c'est un challenge, ni, 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 que c'est un ardome, gna, 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 le Graal, nu, 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 stop in the name of God. Seal your lips, you dirty motherfucker.
Pardon?
Pas bouger. Ah si, allongé. Mort. On parlait de quoi déjà? Ah oui, d'opéra. Et puisque vous y connaissez en opéra, hein, vous y connaissez quoi? Pas grand-chose. Alors, oui, bien sûr, vous avez la présence bestiale d'un castrat, la vision acérée d'un Andrea Bocelli, la sexualité débridée d'une Callas, mais vous êtes ridicule comme un Michel Houellebecq qui interpréterait Don Juan. Non mais le Graal, Monsieur Guy, le Graal, ça n'a rien à voir avec l'opéra. Si Zabou Bretman, Michel Faux, Jacques Attali ou Agnès Jaoui voulaient vraiment tutoyer le sublime, ils se mettraient au foot. Voilà. Alors là, tu parles performance, tu parles challenge, tu parles félicité, tu parles nirvana. Est-ce que Didier Deschamps a mis en scène la Castafiore? Non. Vous l'avez vu en smoking, une baguette à la main, en train de faire son malin devant l'Orchestre Symphonique de Radio France? Non, bien sûr que non. Il a mis son survêt, ses crampons, et avec son sifflet, il a dirigé une partition beaucoup plus périlleuse et prestigieuse à la fois. Il a guidé 23 artistes analphabètes vers la terre promise. Ouais. Une mise en scène modelable. 4-4-2, 4-2-3-1, 10-1, 3-3-3-2. Waouh, c'est pas avec Karajan. C'est pas avec Karajan qu'on l'aurait gagné. La Coupe du Monde de foot, croyez-moi, désolé, mais une fois encore, en plus d'avoir trahi par omission votre soi-disant ami Didier Deschamps, vous avez dit
n'importe quoi.
C'est bien ça. Ouais.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
C'est encore Daniel.
Ça donne envie en tout cas, ça donne envie, c'est prenant. Mais même là, vous l'entendez, vous êtes ému. Mmh. Est-ce que la question de la météo, quand on fait un opéra en plein air, se pose évidemment? Comment vous allez appréhender, pense à Carcassonne, ou pour avoir fait plusieurs émissions là-bas dans la cité, c'est formidable, mais le vent, c'est la première menace. Il parle même pas de pluie, hein. Est-ce qu'il y a du vent ou pas? Très puissant là-bas.
Est-ce que ça serait pas une petite mise de pression là sur
Agnès?
Non, je la refuse justement. je pense que voilà, ça fait 19 ans que ça existe, donc il y a des solutions de rechange, de repli, après ça serait mieux qu'il fasse beau tout le temps.
Les tarifs étant de quoi, d'une quarantaine d'euros jusqu'au maximum, je crois que c'est 100 grand maximum, première catégorie la plus chère possible.
Ouais. Assis sur scène.
Donc
dans la glotte. Pour 200, tu peux chanter avec.
Et Agnès Jaoui, chanteuse. Tu voulais rajouter quelque chose, Leïla ?
Oui, c'est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ouais. C'est important de le préciser, tu as raison. Donc revenons à Roberto González Hurtado et Fernando Fisbein, avec lesquels vous avez constitué un trio des Mis Amores. Le trio de Mes Amours. Oui. Il faisait déjà partie du quintet.
Voilà. Oui. Fernando Fisbein, il faisait partie du quintet et il est aussi le compositeur d'un opéra que je mettrai en scène plus tard. Mais voilà.
Bah, racontez.
C'est tiré d'un livre qui s'appelle L'homme qui aimait les chiens de Leonardo Padura et c'est un immense auteur cubain. Et voilà, on va le mettre en scène avec la compagnie Les Anges au plafond, qui sont une compagnie de marionnettes grandeur nature, tout à fait exceptionnelle. Et ce sera pour 2021.
Sauf que là, cet été, vous êtes en tournée avec ce trio, justement.
Cet été, nous commençons la première date avec le trio des Mis Amores.
Le 18 août à l'Henri Vin.
Exactement. Et puis, on va poursuivre à partir de l'automne. Oui.
En novembre, vous serez à Antibes, du 3 au 5 décembre à la Scala à Paris, puisqu'il y a une nouvelle salle, un théâtre, je sais pas comment le qualifier d'ailleurs, qui s'appelle Scala, face du Théâtre Antoine.
Pas loin, ouais.
Voilà. Enfin, Strasbourg, je crois que c'est Pierre Richard d'ailleurs qui
joue. Elle est en face du Théâtre Antoine.
C'est ça.
Ouais. J'ai rien compris.
Vous y serez du 3, c'est très parisien comme discussion, vous serez du 3 au 5 décembre, donc à la Scala à Paris. Le 9 décembre à Lyon, ça fait pas mal de temps, c'est une vraie, véritable complicité que vous avez tous les trois maintenant.
Ah ben ça fait
sur scène et pas sur disque encore.
Ça fait 20 ans pratiquement. Non, pas encore sur disque. On commence sur scène. Moi, je préfère toujours.
Est-ce que cette musique latine sera forcément ad vitam le style que vous allez chanter?
Écoutez, je n'en sais rien parce que je ne sais pas ce qui arrivera dans ma vie, mais je continue à l'aimer passionnément. Après, il y aura aussi de la chanson. Enfin, on chantera aussi en français. Il y aura aussi de... Tous les trois.
D'accord. Trio des Mis Amores. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Déjà, désolé pour tous les éleveurs de chiens qui auraient préféré élever Leïla ou Amir Jaoui plutôt que Guillermo, devenu le chihuahua de Radio France. Ah ouais, la loterie à la naissance. Ouais, c'est aussi une grande injustice. Désolé pour tous les réalisateurs qui ont eu peur qu'Agnès Jaoui leur coupe là, ou bien les... Oh, vous savez, comme Naguib confie à la pause, pour ce que ça me sert depuis que j'ai passé 50 ans, c'est pas si grave.
Ça désolé. Va pas.
Ah bah, tu me l'as dit, écoute. Assume. Désolé pour les personnes âgées, nos glorieux seniors, désolé pour Agnès Jaoui, désolé pour l'élégance, désolé pour sa famille, ses enseignants, désolé pour Nagui qui lui a donné sa confiance, désolé pour les salariés de la direction de Radio France et de France Télévisions qui ont assisté, impuissants, au naufrage olfactif de Leïla Kaddour Boudadi qui va à l'opéra renifler les vieux, voilà qui allait. Ah, je n'ai plus de mots.
Renifle au théâtre.
14, 15 juin au domaine de Sceaux. 14 et 15 juin au domaine de Sceaux. 28 et 29 juin au château de Vincennes. 2 juillet à Carcassonne. 5 et 6 juillet à Saint-Germain-en-Laye. 4, 5, 6, 7 septembre aux Invalides. Merci Agnès Jaoui.
Merci à vous. Et on vient de me confirmer que donc s'il pleut, c'est reporté au jour d'après.
Très
et que Victorien Sardou n'a rien à voir avec.
Il aurait bien aimé. Hein.
Demain, Jean-Jacques Adot sera à ce micro dans la bande originale. Passez une bonne journée. Voici la campagne de Philippe Bertrand.
Merci Nagui, à demain.